Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Pour sa deuxième émission, Sur les chemins du Nord-Isère fait halte à Saint-Marcel-Bel-Accueil, petit village d'environ 1350 habitants, situé au nord de l'île d'Abeau et tout proche de Bourgoin-Jallieu. Hormis quelques commerces au centre du village, il est caractérisé par peu d'activités industrielles ou de services, mais une activité agricole importante. Ce qui attire l'attention en arrivant dans le centre, c'est cette jolie petite place rénovée depuis peu au pied de l'église. On y trouve trois commerces, une boulangerie, une épicerie et le café de Fanny, où le bar, le restaurant, les journaux locaux et l'inévitable Française des Jeux sont là à la disposition des Saint-Martiaux. Philippe, le patron des lieux, a su aménager son établissement et fournir les services pour que ce qui s'appelait autrefois le café berger redevienne ce lieu de convivialité et de lien social qui est si important dans nos petits villages. À la rencontre de ce qui fait la vie de Saint-Marcel, nous avons rencontré son jeune et nouveau maire, Aurélien Blanc, en compagnie du premier adjoint, Louis Bailly, mémoire vivante de Saint-Marcel et de son histoire. Autre figure locale incontournable que nous devions rencontrer, Guy Gagnoux, maire pendant 25 ans, ancien président de la communauté de communes des Balmes Dauphinoises et aujourd'hui maire honoraire. Pour le monde associatif, nous avons rencontré Jean Féchatelard, président de l'ACAP, association Art, Culture et Patrimoine, qui nous présentera tout un programme de manifestations qui anime la commune. Nicole Gagnoux de Pinois, qui nous parlera théâtre et de la compagnie Aquabelle. René Tessarolo nous présentera le jumelage de Saint-Marcel avec Gosaldo en Italie. Le village possède un club photo dynamique, Jean-Pierre Fusinelli, son nouveau président, nous le présentera. Le club de rugby est l'association la plus importante de Saint-Marcel. Champion de France honneur il y a quelques années et aujourd'hui bien accroché dans la Fédérale 3, il nous sera présenté par Cédric Cussic, son président. Le monde agricole sera également là avec Roland Seigle, céréalier qui est également adjoint au maire, et Olivier Pongan, éleveur de moutons bien connu dans la région avec ses transhumances. Pour commencer, nous allons donner la parole à Aurélien Blanc qui est le maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil.
Aurélien Blanc, maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil donc depuis 2014. Saint-Marcel-Bel-Accueil, c'est un joli petit village d'un peu plus de 1340 habitants qui est, comme son nom l'indique, qui accueille bien ses habitants et qui est plutôt bien, même très bien situé, qui est situé à 3 minutes de l'île d'Abeau et à une petite dizaine de minutes de Bourgoin-Jallieu. Donc c'est un petit village qui finalement a su évoluer avec son temps, mais qui a toujours gardé ses spécificités. Donc il s'est développé au milieu des années 80-90 de manière très modérée. Il bénéficie heureusement finalement de tous les avantages de la ville sans en avoir les inconvénients. Et c'est, je pense, ce qui caractérise vraiment notre village et ce qui fait aussi également qu'il est assez renommé et on va dire très très demandé par les populations et locales et également les populations qui arrivent des grandes villes aux alentours et qui travaillent notamment sur la métropole de Grenoble et sur l'agglomération lyonnaise qui souhaitent prendre un petit peu de bol d'air à une vingtaine de minutes des grandes villes. En ce qui concerne la communauté de communes, donc Saint-Marcel fait partie d'une petite communauté de communes pour l'instant, qui s'appelle les Balmes Dauphinoises, qui correspond à peu plus de 11 000 habitants. Dans quelques semaines, elle fera partie d'une nouvelle communauté de communes, les Balcons du Dauphiné, qui elle représentera 48 communes. Et un peu plus de 73 000 habitants. Donc c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. En ce qui concerne notre commune proprement dite, c'est un village qui est assez ouvert sur le reste des communes aux alentours, qui a heureusement toujours beaucoup de projets. Donc notamment nous venons juste d'inaugurer une crèche, qui est, elle, intercommunale. Nous avons une richesse, comme beaucoup de communes, associative, avec des clubs de sport comme le rugby, hein, que je suis bien sûr obligé d'en parler parce que ils ont été champions de France, il faut le préciser. Et nous avons un certain nombre d'associations culturelles qui font vivre très régulièrement le village.
Je crois aussi que dans le village ou dans la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, vous avez un certain nombre de bâtiments, vous avez plusieurs châteaux, je crois. Donc il y a en particulier le château de Bel-Accueil, le château de Loras, avec la famille de Loras, voilà. Le château de Chanille, et donc vous avez quand même pas mal de belles demeures. Mais ce sera peut-être, on en parlera peut-être juste après pour parler de l'histoire de Saint-Marcel. Et pour parler de cette histoire, qui de mieux placé que Louis Veille, le premier adjoint au maire? Je lui laisse la parole.
Oui, bonjour, Louis Veille, premier adjoint. Je vais vous parler du patrimoine de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, qui est caractérisé par deux choses importantes. Certains bâtiments remarquables et d'autres plus modestes, mais qui sont tout aussi remarquables, toutes les anciennes fermes en pierre. Alors, concernant ces fermes en pierre, ce sont des bâtiments, comme dans tous les villages de plateau de l'île Crémieux, qui ont été construits à partir de la pierre locale, ce qui donne un cachet certain à la commune. Quant au grand patrimoine, il est caractérisé par l'église de Saint-Marcel, qui date de 1905 et qui comporte de très beaux vitraux qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et puis, cinq châteaux et maisons fortes, dont les plus importants sont Bel-Accueil, puisque c'est un peu l'origine du village, et le château de Lerat, qui, comme son nom l'indique, était habité par la famille de Lerat, qui rayonnait sur tout le secteur jusqu'à la Tour du Pin, les seigneurs de Lerat étant au Moyen-Âge les gens qui administraient en quelque sorte le secteur de la Tour du Pin jusqu'à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Le château de Lerat, lui, a un donjon qui date du XIIe siècle, donc c'est assez ancien. Il est très bien entretenu, il est toujours habité. Celui de Bel-Accueil est également très bien entretenu, toujours habité. C'est la même famille, avec des liens pas si lointains que ça entre eux, qui remontent seulement à deux générations. Les autres places fortes sont plus modestes et on n'en connaît pas toujours l'origine, on n'a pas d'écrit à ce sujet. Concernant encore le patrimoine, l'origine du mot de Saint-Marcel-Bel-Accueil, du nom de Saint-Marcel-Bel-Accueil, qui a changé plusieurs fois au fil des siècles, qui s'est appelé longtemps sous la royauté Saint-Marcel de Milieu et qui est devenu Saint-Marcel-Bel-Accueil au moment dans la période révolutionnaire, lorsque les paroisses Mesnat, Bel-Accueil et Saint-Marcel de Milieu ont fusionné. Bel-Accueil vient du latin bellae aquae, qui veut dire belles eaux, mais belle au sens ancien du terme, qui voulait dire beaucoup, parce que sur nos coteaux, en période de pluie, les sources, il y en a à foison. Alors certes, elles ne fonctionnent pas toute l'année, mais il y en a. Et quand il y a beaucoup de pluie, c'est parfois impressionnant. Mais au niveau, je voudrais revenir un peu au niveau géographique, parce qu'on est situé sur le coteau sud du plateau de l'île Crémieux, donc un plateau très ensoleillé, couvert par les bois à la cime des hauteurs, qui on culmine à 444 mètres. Et la plaine, la partie sud de la commune, la plaine est occupée par les marais, qui sont les anciens glaciers qui existaient encore il y a 12 000 ans ici. Et c'est devenu la grande richesse des agriculteurs de la commune. Voilà ce que l'on peut dire concernant la géographie et le patrimoine de la commune.
Saint-Marcel, cité minière au XIXe siècle, peut-être.
Oui, concernant nos maisons fortes, il y en a une un peu particulière qui est Chanille. On n'a pas beaucoup d'écrits sur Chanille, sauf au XIXe siècle. Chanille était occupée par des mines de fer qui ont fonctionné, qui ont été exploitées à deux périodes. Dans les années 1855-60, ces mines de fer, il y avait une concession qui autorisait les mines de Pont-Évêque à exploiter des mines à Chanilles et à Corbessieux. À Corbessieux, quelques forages ont été faits, il n'y a jamais eu d'exploitation. À Chanilles, il y a eu une exploitation qui a duré plusieurs années et qui était assez importante. Elle s'est arrêtée parce que les mines n'étaient pas assez profondes et les gisements n'étaient pas assez productifs. Et vers une dizaine d'années plus tard, les mines ont été remises en exploitation avec plusieurs puits qui ont été forés. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que à l'époque ils n'avaient pas les moyens suffisants, je pense, et ils n'ont jamais trouvé le filon qu'ils espéraient. Ils sont tombés par contre sur des quantités d'eau industrielle énormes au fond des mines et ils ont été obligés d'évacuer. Et ce qui fait que les mines se sont arrêtées, l'exploitation s'est arrêtée au début des années 1870 parce que non rentable. Le minerai était évacué par des galeries qui ressortaient en dessous de la départementale qui va à Corbessieux et acheminé par charrette jusqu'à Vaumilieu et ensuite le minerai prenait le train. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur ces mines.
Je crois qu'elles ont été longtemps la propriété des hauts fourneaux de chasse.
C'est exact. Mais c'était dans la deuxième partie de l'exploitation. Et ensuite, c'était une concession. Le propriétaire à l'époque était un monsieur Jasse. Actuellement, il y a de la famille Jasse à Frontenac. Je ne sais pas si ça a un rapport.
D'accord, merci pour cette précision, effectivement. Et je crois qu'on retrouve dans les murs ou dans les murs en pierre, cette couleur rouge de l'oxyde de fer très souvent.
Oui, à Chanilles, je peux vous en parler parce que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est vrai qu'on trouve des pierres qui ont du fer. Et quand j'étais gamin, on recherchait parfois ces pierres. On n'a jamais fait fortune avec, hein, on n'a pas fait de fonderie non plus, mais c'est exact.
When evening appears, I sigh. but there's no regretting in spite of my tears. Who wouldn't believe those lips? Whoever could doubt those eyes? The night that you told me those little white lies, lies are the cause of tears and sighs, and tears and sighs mean goodbye. So why?
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM et vous venez d'entendre Ella Fitzgerald, Little White Lies.
Bonjour Guy Gagnou, donc vous êtes maire de ancien maire, excusez-moi, de Saint-Marcel-Belaccueil, maire honoraire. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait. Je crois que vous avez été maire pendant 25 ans, donc ça fait quand même beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses.
Oui, alors bon, 25 ans de maire, évidemment, ça laisse énormément de souvenirs. Alors il y en a des très bons, des moins bons. Mais alors j'ai pas fait la liste exhaustive de toutes les réalisations, en sachant bien que le maire c'est un chef d'orchestre. Si on n'a pas avec soi une équipe dynamique et sérieuse, on fait rien. Mais c'est vrai que avec donc le conseil municipal ou les conseils municipaux que j'ai pu diriger, on a fait une école, on a refait une mairie, on a fait la salle des fêtes, on a aménagé les entrées de village. Enfin, bon, j'ai pas la liste exhaustive. On a fait une cantine. Enfin, et on a fait beaucoup de choses. Mais encore une fois. Avec des moyens assez limités, puisque la commune de Saint-Marcel n'a pas des ressources particulièrement importantes. Donc il fallait chaque fois, chaque mandat, dire « bon, ben, cette réalisation, ça sera la réalisation du mandat ». Et puis on se cantonnait à ça. Et, bon, la maison du patrimoine, par exemple, qu'on a réalisée, on a eu une chance parce qu'on a eu une retombée inespérée avec la ligne 400 000 volts qui a été refaite et qui traverse en partie notre village. Donc on a eu une subvention qui nous est arrivée comme ça un beau jour et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de cette subvention, parce que c'est vrai qu'on aurait pu refaire des routes ou enfin, faire de l'entretien courant, mais on s'est dit c'est une subvention qu'on n'attendait pas, donc on va réaliser quelque chose qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu cette subvention. Donc on a mis un petit peu de temps, mais on avait racheté une grange sur la place du village et on l'a transformée en maison du patrimoine et des associations. Et il s'avère qu'aujourd'hui, elle est très utile, quoi. Voilà. Alors qu'au départ, on se disait, ouais, bon, c'est une dépense peut-être. Enfin, certains disaient que c'était peut-être une dépense excessive. Voilà. Ça, c'est des bons souvenirs. Bon, des mauvais, ben, on a eu des décès d'adjoints, de personnes qu'on aimait bien. Et puis, bon, il faut dire aussi, puisqu'on parle de décès, c'est pas très gai, mais vous savez que le maire du village est tenu d'aller annoncer les décès qui se produisent en dehors de la maison à la famille. Et là, j'en ai de très mauvais que je raconterai pas, mais c'est très difficile pour un maire, quoi. Voilà.
Sinon, vous avez d'autres choses, souvenirs en tant que Saint-Marcel? Parce que vous n'êtes pas natif de Saint-Marcel, je crois. Vous êtes un migrant, vous êtes revenu d'une commune lointaine, c'est vénérieux, hein.
C'est vrai que je suis un étranger dans la commune. Je suis arrivé ici en 82. Et, étranger, mais quand même, mon père était secrétaire de mairie de la commune. Donc, en 83, j'ai des personnes de la commune qui sont venues me trouver pour monter une liste, pour vous dire, une liste pour les élections de 83. Alors, tant bien que mal, bon, on a réalisé cette liste. Mais vous savez, dans les petits villages, quand on est de bonne volonté, il n'y a pas d'opposition. On finit toujours par s'entendre et avoir les mêmes vues, les mêmes optiques. Donc, le mandat suivant, eh bien, j'ai été élu maire, quoi. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres élus. J'ai été président de l'association des maires et adjoints des cantons de Bourgoin. Je dis bien des cantons de Bourgoin, j'ai lieu, parce qu'il y avait deux cantons à cette époque. Je suis resté 13 ans président de cette association, et c'est magnifique, parce que là, j'ai rencontré des maires qui aujourd'hui ont, bon, certains ont disparu, mais qui étaient des figures. Et ça, je trouve que ça m'a élargi complètement la vue que je pouvais avoir de ce secteur. Bon, j'ai été aussi président de la communauté de communes des Balmes Dauphinoises de 2002 à 2014, donc pendant 12 ans. Là aussi, ça m'a permis de rencontrer des élus d'autres communes, hein, puisque la communauté de communes des Balmes Dauphinoises, qui va disparaître le 1er janvier 2017, regroupait 8 communes, et ça m'a permis d'avoir avec ces gens-là des relations très particulières qu'on poursuit encore aujourd'hui, parce que on continue à se voir. Et ce soir, par exemple, eh bien, on a le banquet des anciens élus de la communauté de communes. C'est magnifique. On va encore reparler des bons souvenirs. On a gardé vraiment quelque chose de très convivial. Et je pense que ça s'est amené à disparaître forcément, hein, avec la nouvelle communauté de communes qui va regrouper 75 000 habitants à peu près. Donc ce sera plus tout à fait la même chose. On était quand même un certain nombre comme ça à dire... Il faut pas se tirer dans les pattes, il faut essayer d'avancer ensemble, il faut essayer de construire ensemble. Et de fil en aiguille, ces relations qui étaient des relations professionnelles, amicales, sont devenues un peu plus serrées. Et aujourd'hui, on a de vrais amis parmi les élus qu'on a côtoyés.
Oui, c'est vrai qu'avec la nouvelle communauté de communes qui va regrouper 48 communes, ce sera beaucoup plus difficile que de se retrouver à 8. Donc maire, ancien maire, retraité, un peu de vigne aussi, je crois. Il y a le vin Guiganiou qui est réputé, hein.
Oui, ça fait quelques années que j'ai arraché la vigne, ça doit faire 3 ans. Mais c'est vrai que ça a été une passion qui a duré, une vingtaine d'années. Et bon, comme vous le disiez, je suis natif du village d'à côté, de Vénérieux, et j'avais planté des vignes à Vénérieux par l'intermédiaire d'un vigneron célèbre dans le coin qui s'appelle Noël Martin, que tout le monde connaît, et qui m'a appris à faire du vin. Et c'est vrai que, on va pas se vanter, parce que le vin était pas si mauvais que ça. Et je terminerai quand même en disant que tous les vignerons adorent leur vin, même si c'est d'une mauvaise piquette. Et je vais vous donner une citation en patois pour terminer, hein. Les anciens, quand on leur faisait goûter un bon vin, un vin bouché, comme ils disaient, ils disaient en patois, un pas mauvais, mais il ne vaut pas le mine. Sous-entendu, ce vin est très bon, mais ça vaut pas le mien.
C'est une bonne conclusion. Voilà, merci Guiganiou. Je suis avec Nicole Gagnou de Pinois, qui est la présidente de la compagnie théâtrale Aquabellé. Donc cette compagnie a pour vocation effectivement de monter et de jouer des pièces de théâtre. Depuis quand cette compagnie existe ?
Depuis 1994.
Donc elle joue beaucoup à Saint-Marcel, puisque c'est quand même son lieu d'origine, c'est là où elle répète, c'est là où elle se prépare. Elle joue aussi dans pas mal de villages de la région, je crois.
Oui, on a pour habitude à chacune des productions de pièces de faire la tournée des Grands Ducs, la tournée du secteur. On a eu la chance de pouvoir jouer dans des lieux même très culturels, comme le Théâtre du Velin, comme le Théâtre Jean Villard, comme la salle de théâtre Ninon Valin à Montalieu. Et puis, on a toujours eu aussi beaucoup de plaisir à jouer, même si c'est matériellement plus compliqué, dans des halls de sport comme à Saint-Savin ou ailleurs. On a aussi fait partie plusieurs années, et sur la pièce actuelle, ce sera encore le cas, de la saison culturelle de la Verpillière. Donc voilà, on a des lieux assez étendus et enrichissants.
Est-ce que vous avez un répertoire particulier ? Est-ce que vous jouez des pièces, un certain style de pièces, ou est-ce que votre répertoire est très large ?
Alors, notre répertoire est toujours ce qu'on appelle traditionnellement le théâtre de boulevard, mais on a toujours fait le choix que ce soit un théâtre d'abord de divertissement familial, qu'une famille avec des jeunes enfants, et qu'un enfant à partir de 7-8 ans puisse assister avec ses parents, sa famille, à nos représentations. Donc ça, c'est un critère important, parce que la connotation connotation de boulevard veut quelquefois dire de mauvais goût. Et ça, on s'est toujours attaché avec les auteurs qu'on a choisis à avoir quelque chose qui soit justement de bon.
Et vous avez des noms d'auteurs que vous pouvez citer qui sont connus de tout le monde ?
Oui, on a eu au répertoire du Marc Camoletti, on a eu Bricker et la Seigue, on a eu des grands auteurs connus internationalement, bien sûr. Des auteurs un petit peu plus actuels, dont le dernier en date, c'est Gilles Direct, dont nous avons joué Venise sous la neige. Voilà, donc ce sont des auteurs, oui, renommés.
Une pièce de théâtre, ce sont des acteurs, bien sûr, mais ce sont aussi des décors. Comment faites-vous pour les décors ?
Alors, on fonctionne en complète autarcie, puisque quand on a créé la compagnie, eh bien, on a investi à fond propre dans l'achat de matériel et de matériaux pour construire les décors. On a un lieu de rangement de notre décor actuellement qui est sur Saint-Marcel Bel Accueil, qui est généreusement prêté par la municipalité. Et on fait tout. On fait la remise à niveau du décor.
Donc chacun a deux rôles finalement. Le rôle qui joue sur scène et puis le rôle qui joue pour fabriquer le décor.
Voilà, c'est un petit peu ça.
Donc il y a des prochains spectacles. Il y a des prochains spectacles qui se préparent parce que je crois que ce soir on est dans la salle des fêtes de Saint-Marcel Bel Accueil. Et il y a une répétition tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle pièce qui est en gestation et qui va arriver.
Oui, là on en est donc sur la compagnie à notre 10e pièce qui s'appelle « Quelle famille ?». Et la première de cette pièce va avoir lieu ici, sur nos terres. Donc là, ce sera un samedi soir et le dimanche après-midi au profit du CCAS de Saint-Marcel.
Après le théâtre, la photo. Je suis donc avec Monsieur Jean-Pierre Fusinelli, qui est le président du photoclub de Saint-Marcel Bel Accueil. C'est un photoclub qui existe depuis une bonne quinzaine d'années.
Nous sommes un club photo de 70-80 adhérents à peu près. Le club a été créé dans les années 2000 et actuellement nous rayonnons effectivement sur la région. On participe à de nombreux concours. C'est un club qui fait de la photo numérique essentiellement. Cette photo numérique touche à peu près tous les domaines. On fait des cours d'initiation pour les tout jeunes débutants. Pour ceux qui sont un peu plus confirmés, nous donnons également des cours de traitement d'images. Nous organisons des sorties terrain. Il y a un groupe qui s'occupe de nature. Nous réalisons également des soirées à thème. L'année dernière, c'était soirée Europe. Et nous avons de très nombreuses activités tout au long de la semaine. L'esprit du photoclub, c'est que chacun amène son savoir dans le club et qu'on est là pour partager nos compétences. Et c'est le rapprochement de ces particularités qui fait la force du club et qui fait l'enrichissement de chacun. Et on tient beaucoup à ce que ce soit par le partage et l'échange qu'on se nourrisse dans le club.
Au niveau des jeunes, des nouveaux adhérents, est-ce que vous avez du matériel en prêt ?
Nous avons du matériel pour faire de la photo studio à l'intérieur du club, au sein du club. Nous avons du matériel d'impression pour pouvoir traiter les images que nous avons prises. Nous avons des ordinateurs, mais nous n'avons pas actuellement de matériel photo à pouvoir prêter à nos adhérents.
Et pour les différentes activités, vous avez parlé que vous faisiez de la photo de nature. Est-ce que vous faites aussi de la photo animalière ?
Effectivement, on a quelques collègues qui sont plus spécialisés dans ce type de photographie et qui organisent des sorties spécifiques pour ce type de photos. C'est une activité qui est actuellement en train de se régénérer. Et qui devrait pas tarder à faire les premières sorties terrain dès le printemps.
Et donc vous faites une exposition interne au club chaque année, donc à Saint-Marcel. Cette exposition, vous la faites à quel moment à peu près ?
Cette exposition se fait généralement au mois d'octobre. Cette année, c'était un peu exceptionnel. Nous l'avons faite début novembre. Elle se fait systématiquement à la salle des fêtes de Saint-Marcel Bel Accueil. Et cette année, nous avions 39 exposants et plus de 300 photos.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Et maintenant, une petite pause musicale pleine d'humour avec la chanteuse québécoise Linda Lemay, Chérie, tu ronfles.
Moi j'aurais jamais cru que je penserais au divorce, mais l'idée m'est venue vers la fin de la nuit de noces. C'est pas que je te déteste ou que je veux te voir mourir, c'est juste que tu m'agresses chaque fois que tu respires. Non, c'est pas que tu m'écœures ou que je peux plus te sentir, mais essaye de dormir dans la pelle d'un tracteur. C'est pas que t'es pas gentil, c'est que t'as dû avaler, lorsque t'étais petit, un moteur de Harley. Chérie, tu ronfles. Je t'ai donné des coups de genoux, je t'ai secoué, je t'ai retourné, je t'ai donné des coups de pied, ça a rien changé du tout. Quand t'es prêt d'étouffer, là, je guette en silence, presque en train d'espérer, puis tu recommences. Je me suis mis des bouchons et des bonnets de grand-mère, mais y a tes vibrations mesurables sur Richter. Je t'ai acheté toutes les marques d'humidificateur pour calmer tes horreurs d'amygdale qui claquent. Et puis j'ai bâillonné ta grosse face de limace en osant prétexter que c'était un fantasme. Quand je te pince les narines jusqu'à ce que ça fasse mal, c'est au tour des babines de faire comme un cheval. Y aurait l'opération qui nous sauverait la vie, mais monsieur l'étalon a peur du bistouri. Pourrais-tu m'expliquer, me confier ton secret? T'es-tu fait installer entre la gorge et le nez un broyeur à déchets? Y a sûrement une façon, une potion miracle à donner au cochon pour ne plus qu'il renacle. Moi je t'aimerais, si c'était pas que tu coasses, si je ramonnais ta face à grands coups de quenouille. Au début, je me disais que j'allais m'habituer, mais alors j'ignorais que t'allais empirer. Là, je comprends le bonheur de ta mère au mariage. Elle rêvait que son enfant pas de muffler des ménages. Je vais te tirer d'affaire si tu veux que je me charge de te trouver un garage ou un vétérinaire. Sinon, retourne chez ta mère avec ton vice caché. Je vais lui dire de te refaire et puis de s'appliquer.
Je suis avec Jean Fay-Châtelard, qui est le président de l'association Culture, Arts et Patrimoine de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Cet entretien s'est déroulé dans le café de Fanny, avec quelques bruits de voix en fond.
Bonjour, oui. Donc, je préside la CAP depuis 3 ans. L'association a été créée en 2009, sous l'impulsion de la mairie, qui voulait qu'une association prenne en charge l'animation de la maison du patrimoine et des associations, qui est une ancienne grange très bien rénovée et qui nous sert de lieu maintenant d'exposition et d'organisation de spectacles. Donc, pour notre activité, on essaye de donner l'accès à tous à des spectacles, à des expositions. Et pour cela, donc, nous faisons venir des artistes. Et puis, j'essaye, moi, depuis que j'ai pris la présidence de l'association, de faire venir, en même temps qu'il y a une exposition, de faire venir des musiciens. Et donc, chaque week-end d'exposition, nous avons, le samedi soir, un concert qui est proposé avec des styles très variés. Donc on n'est pas cantonné à un seul style de musique, hein, puisqu'on fait venir de la musique classique. Nous avons fait venir des chanteurs contemporains qui font de la musique populaire. Et donc prochainement, nous aurons un jeune créateur, auteur-compositeur, le 4 février, qui viendra avec sa guitare nous faire partager ses textes et ses compositions.
Je crois que ce jeune compositeur, il est bergalien.
Et effectivement, c'est un local et on aura le plaisir d'avoir pendant le concert au mur des tableaux qui ont été réalisés par des habitants de Saint-Chef. Donc on reste dans la région. Dans les prochains mois, nous aurons aussi un spectacle pour enfants. Chaque année, au mois d'avril, nous faisons venir un conteur ou une conteuse. Cette année, ce sera une conteuse, Marie Dragic, qui viendra alors le mercredi après-midi pour le centre de loisirs Léo Lagrange et le dimanche après-midi pour les enfants et les parents Nous aurons ensuite une exposition sur l'Afrique. Donc ça, ce sera fin avril. Une association qui est jumelée avec un village au Togo qui viendra nous présenter ses réalisations et nous proposer un atelier de découverte de la fabrication du batik. Début mai, nous aurons une exposition de Mika, qui est une artiste peintre qui est relativement connue maintenant dans la région. Et nous aurons en même temps, alors là, samedi soir, nous aurons une pièce de théâtre qui a été mise en place par de jeunes artistes qui ont écrit et mis en scène leur pièce de théâtre. Donc là, ça sera une découverte. Pour l'instant, le titre s'appelle L'éternel ménage à trois. Fin mai, une exposition de peinture. Et puis, au mois de juin, c'est l'association de peinture de Saint-Marcel-Bel-Accueil qui expose, comme chaque année, et qui présente le travail de tous les adhérents de l'association qui s'appelle Terre d'Ombre. Le 16 juin, nous mettrons en place la fête de la musique. J'ai initié cette manifestation il y a maintenant 2 ans. Et après le succès des 2 premières années, ben on est parti pour, je l'espère, animer aussi joyeusement la place du village, qui maintenant qu'elle a été rénovée, est vraiment très accueillante. Voilà pour le programme de l'année. Alors c'est plutôt un programme artistique. À côté de ça, donc nous avons entrepris de rénover la fontaine. Alors ça s'appelle la fontaine de Milieu. C'est le point d'eau historique du village où avant que l'eau n'arrive sur la place du village, tous les villageois allaient chercher l'eau. Donc la fontaine de Milieu. L'an dernier, nous avons commencé à consolider la voûte. Et puis l'an prochain, nous allons continuer à donner un accès agréable à cet endroit. Et puis dernière chose. Nous avons aussi organisé l'an dernier, et je pense que nous allons renouveler l'opération, une balade découverte du patrimoine de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Voilà un programme bien chargé, avec beaucoup de travail en amont. Et là, je peux dire que j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe très, très motivée, très dynamique, toujours présente pour faire face à toutes les manifestations que nous organisons.
C'est un riche programme que vous venez de nous décrire. La variété de votre programmation permet de toucher un large public et chacun peut y trouver un spectacle ou une manifestation correspondant à ses aspirations. La SPIDA est un des 3 clubs phares du pays bergalien. Après Bourgoin-Jallieu et Saint-Savin, c'est le plus récent des 3. Plutôt bien classé en Fédéral 3, il possède également une belle école de rugby. Son président, Cédric Cussic, nous le présente.
Donc je vais vous présenter sommairement le club de la SMIDA, Saint-Marcel-Île-d'Abeau. Ce club a été créé en 1977, donc nous aurons 40 ans cette année. Le club a démarré à Saint-Marcel et dans les années 90, il y a eu une fusion avec la ville de l'Île-d'Abeau qui n'avait pas de club de rugby, mais qui souhaitait faire quelque chose dans le monde de l'Ovalie. Donc les deux communes se sont rapprochées et c'est là qu'est né le club de la SMIDA. C'est un club qui suit une progression régulière d'année en année. La preuve, puisqu'en 40 ans, nous avons réussi à titiller la Fédérale 2 pas longtemps, et nous sommes largement maintenant installés en Fédérale 3 depuis de très nombreuses années, qui plus est avec plusieurs finales du championnat de France, puisqu'en 2001, nous avons perdu la finale promotion d'honneur, en 2009, nous avons été champions de France honneur, et en 2014, nous avons perdu la finale de Fédéral 3. Donc 3 finales en très peu d'années, c'est le gage d'une progression du club, d'un club sain qui travaille bien et surtout qui fait confiance à ses jeunes. Et aujourd'hui, le leitmotiv du club, c'est former, parce que aujourd'hui, l'argent, il en faut, mais on n'en a pas énormément. Donc on forme nos jeunes, on les fait progresser. Les meilleurs, malheureusement, peuvent aller voir ailleurs, ce qui est normal, c'est notre rôle de former. Et puis, on essaye de faire vivre tout ça dans une bonne harmonie, une bonne convivialité au niveau du club. Alors au niveau des effectifs aujourd'hui, nous avons à peu près 350 licenciés au niveau du club. Ça va des U6 aux seniors, environ 120 à 150 enfants entre 6 et 12 ans, et puis après U14, U16, U18 et 80 à 90 seniors. Donc voilà, un club complet. avec des administratifs dans chaque catégorie, très bien structurés, avec des éducateurs très bien formés aussi. Donc voilà, quelque chose d'important pour accueillir nos enfants et moins jeunes, voilà, dans des bonnes conditions et un très bon rapport entre les mairies de Saint-Marcel et l'Île-d'Abo qui nous aident en fonction de leurs moyens. Et ça, je tiens à le souligner.
Il y a aussi, quand on fait un match de rugby, il y a aussi les spectateurs. Je crois que vous avez quand même aussi pas mal de monde, pas mal de spectateurs chaque dimanche que je joue ici.
Oui, tout à fait. Là-dessus, il y a une très très belle communion entre les spectateurs et les joueurs. La convivialité, la troisième mi-temps, les amis. Et puis après, à côté de ça, quand on a déjà tout ça, on a déjà mis les bons ingrédients pour que tout se passe bien.
Comme vous avez parlé de former beaucoup de jeunes, beaucoup de gens issus du club, ça veut dire que les joueurs des équipes premières ou de la réserve sont beaucoup de joueurs issus du club, donc de la région, donc ça aussi, ça tisse des liens avec tous les habitants du secteur.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je dirais que du groupe des seniors, 80% sont passés par l'école de rugby. Les autres viennent des villages limitrophes. Je crois que celui qui vient le plus loin, il doit faire une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est vraiment des gens du cru. Et puis, on retrouve les familles autour de la main courante le dimanche. Et ça, vraiment, c'est vraiment super.
Finalement, il n'y a pas de club de foot à Saint-Marcel-Bel-Accueil.
Non, je crois qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a sur les villages alentours, mais nous, on a encore gardé le ballon ovale et puis on essaye de l'inculquer même à l'école primaire où toutes les années, eh bien, on met en place un cycle rugby pour les enfants de CM2. Et maintenant, c'est devenu un petit peu une coutume, même une obligation, je dirais, où voilà, les gamins doivent faire leur cycle de rugby.
C'est un club qui joue déjà à un bon niveau et qui a surtout gardé l'esprit village, l'esprit clocher qui était si cher au rugby il y a quelque temps et que le rugby professionnel à très haut niveau a un petit peu effacé.
Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je me reconnais encore dans les valeurs du rugby à l'ancienne, c'est-à-dire les amis, le partage du terrain, le sacrifice sur le terrain et après les troisièmes mi-temps, les repas. Et aujourd'hui, à Saint-Marcel, c'est pas un club, c'est une grande famille où les gens sont contents de se retrouver et ça, c'est très très important à mes yeux et le jour où il n'y aura plus ça dans ce club, je pense que je ne serai plus président de ce club.
Je suis à nouveau au café de Fanny, ce qui explique le bruit de voix et de son que l'on va entendre. Et je suis avec René Tessarolo, qui est le président du comité de jumelage. Enfin, je crois pas que ça s'appelle tout à fait comité de jumelage à Saint-Marcel, c'est un autre petit nom, il va vous dire ça tout de suite, et qui va vous parler de leur lien avec l'Italie, dû à la présence à Saint-Marcel depuis plusieurs générations de gens qui viennent de cette petite commune qui est, je crois, du côté de Venise, hein, au nord de Venise. Donc je lui passe la parole.
Oui, bonjour. Donc cette association est née en 2012. Elle est l'issue d'une rencontre entre des élus, dont le maire à l'époque qui s'appelait Guy Gagnot, suite donc à un voyage de 4 ou 5 personnes, dont l'initiateur était Roger Pongan, où sa famille était originaire de Gosaldo, et d'un village qui s'appelle Pongan. Donc, suite à cette excursion en terre italienne, l'idée est née de voir la possibilité qui s'offrait pour créer des liens entre l'Italie, donc le village de Gosaldo, et Saint-Marcel-Bel-Accueil. Donc, cette association est née en 2012, à l'issue d'une rencontre des villageois de Saint-Marcel, et ont décidé à ce moment-là de monter une association qui s'appelle la SMGTA, qui veut dire Saint-Marcel, Gosaldo, terre d'amitié. Donc, comme les termes le disent, pour créer des liens d'amitié entre ces deux villages. De là, plusieurs manifestations sont nées. Nous nous rendons généralement une année sur deux dans ces villages, et dans ce village, Gosaldo, et à l'inverse, une année sur deux, nos amis italiens viennent en terre de Saint-Marcel pour visiter la région et s'imprégner des coutumes locales.
Vous avez un comité de jumelage, effectivement, qui est aussi un lien et un fédérateur de ces échanges. Est-ce qu'il y a d'autres échanges avec d'autres associations de Saint-Marcel qui, soit de façon autonome, soit aidées par le comité de jumelage, existent entre Saint-Marcel et Gosaldo?
Eh bien, par le passé, il y a eu des contacts assez proches entre les deux services techniques des pompiers de Saint-Marcel et de Gosaldo, où il y a eu des échanges. Par contre, ces échanges se sont stoppés suite au regroupement des activités de feu de Saint-Marcel qui a intégré le domaine de Frontenat au niveau du service, de ses services.
Est-ce qu'au niveau des scolaires, des écoles, des enfants, il y a quelque chose soit en projet, soit actuel?
Au niveau scolaire, des contacts ont été pris en cette fin d'année avec l'association des sous des écoles qui étudie avec les corps enseignants et la directrice de l'école primaire de Saint-Marcel qui étudie des projets possibles entre l'école de Gosaldo et de Saint-Marcel, mais le projet n'est qu'à son départ.
Donc actuellement, il y a ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets de jumelage, de faire vivre d'autres échanges avec d'autres communes d'Europe ou du monde?
Non, pour l'instant, aucun projet. Et ce n'est pas pour l'instant le désir de l'association. C'est surtout de garder ces liens avec l'Italie et de les faire vivre à un maximum avec des activités ou des relations avant de s'engager sur d'autres communes européennes ou hors Europe.
Okay, bah écoutez, merci pour cet aperçu effectivement des échanges, parce que je crois que c'est toujours des liens de convivialité et de plaisir, et nos amis italiens, je crois qu'ils sont quand même des bons vivants. Et je crois que je connais quelques personnes de Saint-Marcel qui sont des bons vivants aussi, donc ça devait très bien se passer, je crois.
Oui, je remercie déjà toutes les personnes qui sont impliquées dans cette association et aussi la commune, qui, les liens qu'on a avec certaines personnes, permettent et sont partantes pour que ce projet évolue dans le bon sens.
Okay, merci beaucoup.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent. C'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis, vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dis le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite. Ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original. Je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo, maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Le stress, enfin à l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM et vous venez d'entendre Marie-Paul Bell, la Parisienne.
Je suis avec Roland Seigle, qui est agriculteur à Saint-Marcel-Bel-Accueil et qui fait essentiellement de la grande culture, donc principalement du maïs. Et c'est quelqu'un qui connaît bien effectivement l'environnement agricole de Saint-Marcel. Donc il va nous parler un petit peu de tout ça.
Bonjour, Saint-Marcel-Bel-Accueil, c'est une commune de 1800 hectares, dont la moitié est exploitée par une douzaine d'agriculteurs, dont quelques-uns en double activité. Principalement, on est dans un secteur de production de maïs, puisqu'avec la grande zone humide, les terres sont propices à cette culture. Et puis sur le haut de Saint-Marcel, c'est plutôt des céréales d'automne, blé, orge, colza. Il reste quelques exploitations qui ont encore un petit peu d'élevage. Voilà, sinon, la moyenne des exploitations est aux alentours de 80 hectares, donc ça correspond à la moyenne départementale. Nous avons la chance d'avoir un silo sur la commune qui permet de collecter les maïs et de les transporter par loin des parcelles. La moyenne d'âge des agriculteurs est de 45 ans, donc ils ont encore un bon bout de chemin à faire. Et puis il y a déjà quelques jeunes qui arrivent et qui prendront le relais.
Donc c'est déjà bien d'avoir des jeunes agriculteurs qui reprennent derrière, parce que c'est pas le cas de toutes les communes. Il y a beaucoup de communes où la moyenne d'âge des agriculteurs est beaucoup plus élevée.
Alors c'est vrai que là, on est une génération autour de 45-50 ans où on est déjà bien représentatif, puisqu'on doit être 6 ou 7 agriculteurs dans ces tranches d'âge. Et on est trois à avoir un fils qui pourrait prétendre à prendre la suite.
C'est très bien quand on pense que effectivement l'agriculture est quelque chose qui est souvent un métier qui est souvent difficile. C'est un métier, alors peut-être pas dans la culture, surtout dans l'élevage, c'est un métier qui demande une présence, on va dire 7 jours sur 7 et souvent 24 heures sur 24. Donc peut-être que dans la partie maïs ou blé, c'est peut-être pas tout à fait, mais il y a des périodes où il faut effectivement être très très présent.
Effectivement, il y a des périodes de pointe hein, en semis ou en récolte. Ceci dit, nous sommes passés à des exploitations plus spécialisées qu'il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça s'est plus spécialisé et les trois agriculteurs de tête à Saint-Marcel qui font que de la grande culture ont des exploitations d'en moyenne 150 hectares, mais qui permet aussi d'avoir un niveau économique suffisant pour tirer un revenu raisonnable malgré une conjoncture actuelle très difficile.
Le coût des produits que vous vendez, quelquefois, il est relativement bas. Et...
Bah oui, malheureusement, la mondialisation entraîne à l'heure actuelle les prix vers le bas parce que tous les pays sont gros producteurs, ce qui fait que quand on doit vendre de la céréale à un prix proche du coût de revient, voire en dessous le coût de revient, bah, y a quand même des passages très difficiles où il faut être bon gestionnaire pour bien faire attention de ne pas aller vers des ennuis économiques trop graves et pouvoir passer ce cap et espérer que l'avenir soit un peu meilleur et aussi qu'il soit plus facile quand même à la fois d'en tirer un revenu, à la fois de faire des efforts environnementaux, puisque c'est la grosse pression que tous les agriculteurs subissent à l'heure actuelle. Tout ça fait que on travaille du mieux possible dans le respect et de l'environnement et dans la réussite économique de nos exploitations pour en tirer un revenu décent qui permette de faire vivre des familles d'agriculteurs.
Oui, parce qu'en plus le métier d'agriculteur il a beaucoup évolué ces dernières années. L'agriculteur maintenant c'est plus quelqu'un qui simplement laboure ses terres et puis sème un petit peu comme il veut. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances d'analyse en presque de chimie, et puis doit avoir aussi un bon savoir-faire sur un plan économique et sur un plan de gestion.
Tout à fait. Hein, l'expérience fait qu'il faut être à la fois agronome, parce qu'il faut quand même faire pousser des cultures pour obtenir un potentiel de récolte suffisant pour que ce soit rentable, et puis il faut aussi consacrer un peu de temps à la gestion pour bien savoir où on va, parce qu'aujourd'hui, les chiffres vont très vite et aussi bien on peut gagner, aussi bien on peut perdre. Donc il faut aussi passer un peu de temps à être devant l'ordinateur et dans les papiers et la gestion de l'entreprise, puisque les exploitations agricoles aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une entreprise à part entière avec un calcul comptable qui doit être tenu avec rigueur si on veut réussir.
Après la culture de maïs, je vous propose de parler d'élevage avec Olivier Pongan et ses 400 brebis. Il partage son temps entre Saint-Marcel et le massif de Chartreuse. En ce moment, c'est la première période d'agnellage, et si vous entendez quelques bêlements derrière nous, c'est que nous sommes au milieu de ces brebis.
Olivier Pongan, je suis éleveur et berger à Saint-Marcel-Bel-Accueil, j'ai 400 brebis, c'est des mérinos, c'est une bonne partie de mérinos, c'est des mouriroux, et là en ce moment il y a un peu de boulot parce qu'il y a l'agnellage, là ça fait du travail un peu là.
Donc en ce moment, vous passez l'hiver à Saint-Marcel. À quel moment est-ce que vous montez vos bêtes en chartreuse?
Que bah, là, l'annelage va se faire. On passe l'hiver à Saint-Marcel. Après, au printemps, on sort tout jusqu'au mois... mi-mai, on est sur la commune de Saint-Marcel. Et après, je monte en chartreuse mi-mai, vers le 15-20 mai. Tout dépend de la météo. Et je fais manger autour de Saint-Pierre. Là, j'ai des amis qui me laissent des prés. J'arrive dans une ferme, c'est chez M. Frédéric Diedrich à Saint-Hugues, qui m'a accueilli la première année que je suis arrivé en chartreuse. Et après, il m'a fait connaître d'autres gens. Je fais pâturer autour du village de Saint-Pierre. Et après, je monte au col du Coq sur l'Alpage vers début juin. Tout dépend... la pousse de l'herbe, et après, ben, je reste la saison sur l'alpage, et on redescend fin septembre, début octobre, tout dépend de l'herbe.
Comment se passe l'aller et le retour de l'alpage?
On part en camion, parce que bon, il y a beaucoup de petits agneaux, ils pourraient pas trop suivre, et puis bon, tout le monde a besoin de l'herbe au printemps pour leurs bêtes, parce que les gens ont besoin de leur pré de fauche, tout, ça serait un peu plus dur. On monte en camion, et on redescend à pied au mois d'octobre, on part toujours vers le 15-20 octobre, on part. Et là, on rentre à pied, puis après, on a nos étapes, descend 6 jours, je crois qu'il y a 97 km pour rentrer.
Donc, j'ai fait une petite trotte quand même, hein. Vous avez donc des agneaux en ce moment qui vont arriver, ces agneaux vont être bons à la consommation, on va dire, dans les été à peu près?
Bah là, il y en a beaucoup qui vont se tuer pour Pâques, et puis après on en vend beaucoup pour la mise à l'herbe, et puis après ils vont se tuer juin, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre on en a. Parce que là on a un gros annelage, là la moitié qui va anneler maintenant, là, jusqu'à fin décembre, et après l'autre partie va anneler début mars, jusqu'à fin avril.
Comment écoulez-vous votre production? En direct, sur pied ou sous forme de viande?
La vente, nous, c'est en direct, on vend en cassette, on fait une centaine de cassettes dans l'année. Et après, j'ai un négociant qui me prend tous les agneaux. Et après, on vend au printemps un peu pour la mise à l'herbe, 2-3 méchouis comme ça, et puis 2-3 marchands qui en prennent. Mais autrement, on vend tout sous vide, étiqueté. On fait tuer à Grenoble, et après, c'est une entreprise qui découpe à Silan.
Donc, pour de l'agneau de qualité, il faut s'adresser à vous.
Ah ouais, non, ils sont bons. Après, ils sont tout le temps dehors. Hein. Les bêtes, elles sont fermées un mois et demi, deux mois juste pour l'annelage. Et là, fin février, début mars, on lâche. On les fait déjà sortir.
J'ai vu que vous aviez des patous. Est-ce que pour vous, le loup, c'est un risque dans les alpages où vous êtes?
Bah, le loup, là, il n'y a encore pas trop, à part cette année qu'il a été vu en chartreuse. Mais après, ouais, c'est pas le même boulot et... Après, c'est plus de contraintes. Puis nous, on a beaucoup de bois. Alors, c'est pas facile à garder s'il y a encore le loup. Tout. Mais là, ça fait. Moi, ça fait ma 8e saison. Là, on n'a pas été embêté encore. Pourvu que ça dure. Et,
Vous produisez de la viande, mais produisez-vous également du lait ou des fromages?
Non, nous, on fait pas de fromage, rien. C'est tout pour la viande. Ou pour la garde, ou des agnelles de renouvellement que des gens achètent.
Merci Olivier Pongan. Vous avez su donner un peu de rêve aux petits et aux grands avec votre transhumance. 1000 personnes peuvent vous regarder passer, c'est impressionnant. Vous donnez une belle image de ce métier difficile d'éleveur, bravo.
Ouais, bah là, cette année, ouais, il y a vraiment eu du monde plus que les autres années, je pense. Et puis, bon, après, c'est beaucoup pour les enfants. Et puis là, c'est tout pour le sous des écoles. Ah, c'est bien. Puis, bon, il y a vraiment, là, il y a vraiment eu du monde. On a été surpris, même. Hein.
Notre prochaine émission nous conduira à Maubec, qui, dit-on, fut autrefois une terre savoyarde.